Radio Okapi.
Le journal Belinda Bousouma.
Cette dénonciation de l'ONG à Cage, les anciens membres du gouvernement devenus parlementaires continuent à percevoir leur salaire de ministre. L'association congolaise pour l'accès à la justice demande au Premier ministre de diligenter une enquête à ce sujet. Victimes des exactions des miliciens, les populations de Massissi au Nord Kivu ne savent plus à quel sens se vouer. Chaque habitant est contraint de payer 1000 francs congolais sous peine de fortes amendes. L'administrateur de Massissi s'est dit dépassé. L'invité, Ferdinand Matiaba, chef de bureau de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle au CEP Nord Kivu, il analyse certains extraits de l'hymne national congolaise par rapport aux antivaleurs qui gangrènent le pays. Madame, Messieurs, bonjour. L'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dénonce les anciens membres du gouvernement qui ont quitté leurs fonctions pour occuper le poste de parlementaire continuent à percevoir leur salaire de ministre et autres avantages. Cette dénonciation de l'ONG ACAJ est contenue dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Maître Georges Kapiamba, président de ACAJ, demande au Premier ministre de diligenter une enquête à cet effet avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Georges Kapiamba, joint par Blaise Chindani.
Jusqu'à ce jour, plusieurs anciens membres du gouvernement continuent à toucher leurs émoluments et qu'ils venaient même de recevoir chacun une voiture neuve. En dehors de cela, nous avons aussi plusieurs preuves qui établissent que l'argent qui était souvent sorti du compte des trésors, affecté au paiement des indemnités kilométriques, aux frais de communication, aux frais de transport pour les personnes politiques et administratives de cabinets ministériels, cet argent a été systématiquement détruit. Et toutes les démarches que nous avions eu à faire pour obtenir une enquête et mettre fin à ce détournement de manière à ce que leurs auteurs soient poursuivis et contraints à rembourser n'ont jamais abouti. Donc nous demandons au Premier ministre qui est là qu'avant de commencer de se mettre au travail avec un nouveau gouvernement, de commencer d'abord par un audit général de manière à identifier tous les actes répréhensifs commis par ces anciens membres du gouvernement ainsi qu'au niveau du secrétariat du gouvernement et qui soient poursuivi, condamné conformément aux lois de la République et que les biens pris illégalement à l'État soient récupérés, retournés à l'État.
Et puis cette réponse de l'Union européenne à Greenpeace, dans un communiqué de presse la semaine dernière, la section Afrique de cette ONG internationale demandait à l'Union européenne d'aller au-delà des simples mots et d'arrêter de soutenir par inaction l'exploration pétrolière dans les parcs nationaux de la RDC. En réaction, le premier secrétaire et chef de section environnement de l'Union européenne affirme, je le cite, face aux révélités pétrolières dans les parcs nationaux de la Salonga et de Virunga, l'Union européenne agit à la fois par la diplomatie et par la coopération au développement. Fin de citation. Arnold Jacques Dixmude estime qu'une agriculture durable à la base et la conservation de ces espaces peuvent apporter plus de prospérité pour la RDC que l'exploitation pétrolière. On l'écoute au micro d'Honoré Messenga.
On ne peut pas parler d'inaction, nous ne sommes pas inactifs. Certes, notre rôle en tant que diplomate, c'est d'utiliser les mots, d'envoyer des courriers, mais au-delà de ça, nous avons tout un volet de coopération au développement. Et nous investissons des dizaines de millions d'euros dans l'action, dans ces deux parcs concernés, le parc de la Salonga et le parc des Virunga. Et cette action vise d'une part à renforcer les moyens de gestion des parcs et en même temps, une grande partie de ces fonds vont pour des actions de développement au bénéfice des communautés. On veut aussi montrer aux décideurs économiques et politiques qu'il n'y a pas que le pétrole qui peut apporter la prospérité. Le développement à la base par l'agriculture, une agriculture durable, par la conservation elle-même qui peut générer le tourisme et par d'autres activités, on peut apporter une prospérité qui est beaucoup plus équitable et durable que le pétrole.
Ils sont jeunes et ils se mobilisent contre Ebola. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée hier 12 août, une certaine groupe je voulais dire, un groupe de jeunes de Goma, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo ont échangé sur le rôle et l'implication de la jeunesse pour prévenir et éliminer la maladie à virus Ebola. Ils viennent de plusieurs associations locales, d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire et confessions religieuses et ont répondu à l'appel du réseau international des consultants humanitaires, RETEC Info en sigle. Cette organisation se propose de renforcer les connaissances des jeunes sur l'épidémie afin qu'à leur tour, ils transmettent le message de sensibilisation auprès de leurs communautés respectives. C'est comme l'explique ici Bienfait Naboukani, assistant chargé des informations au sein de RETEC. Il est au micro de Bernardine Diambou.
Nous avons songé bien que cette journée ne puisse pas passer inaperçue, que nous puissions réunir quand même les jeunes et discuter autour de la question liée à la maladie à virus Ebola. Actuellement, la riposte se focalise beaucoup plus avec les organisations internationales. Maintenant, à notre niveau, nous avons trouvé qu'il serait mieux que nous puissions impliquer les bases, notamment les associations locales, qui puissent nous aider à transmettre les messages, puisque au sein des équipes de riposte, il y a ceux qui ne sont pas soit acceptés par la communauté, mais ceux qui sont véritablement proches, peuvent partager facilement les messages et que les messages atteignent tout le monde et ça contribue quand même à l'éradication de cette maladie. Il y a des associations qui réunissent plus de 200 jeunes. Vous imaginez, une fois tous ces jeunes-là ont déjà les messages de lutter contre la maladie à virus Ebola, c'est déjà un pas d'avance dans les processus pour préserver la santé de notre communauté.
Restons au Nord Kivu. Victime des exactions des combattants NDC rénovés, la population de la localité Nyangé-Bibwe, des villages Mpati et Kivuye, en groupement Bachali-Mokoto, en territoire de Masisi, n'en peut plus. Actuellement, ces miliciens obligent chaque habitant, y compris les vieillards et les enfants, de payer une taxe de 1000 francs congolais. Cela se passe devant chaque église. La décision serait prise par un certain Kibonge Mudogo, commandant secteur du NDC rénové. Ce dernier aurait même imposé au chef de localité de sensibiliser la population pour payer cette somme, faute de quoi les récalcitrants seraient soumis à des fortes amendes. Pour échapper à ces exactions, certaines familles cherchent à se réfugier dans d'autres agglomérations plus sécurisées. Un habitant témoigne au téléphone de Sifa Maguru.
Actuellement, nous vivons une situation de relève par rapport au contact illégal imposé aux femmes de fuir de vieilles, de 1000 francs au minimum. Et quand vous n'avez pas cette taxe, il faut au moins donner 3000, 2000. Depuis avant-hier, le samedi dernier, il y a un secteur, un secteur organisé par le Sud-Bengen, qui par exemple, interdit aux gens de partir au champ, aux fonctionnaires pour que ces taxes, et nous attendons les gens même à l'église pour qu'ils payent ces taxes par force. On n'a pas droit de vendre son champ de produits agricoles, pourquoi pas même le vendre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de chercher une piste de solution par rapport à ça, sinon la population vive une vie douloureuse et stressante.
Interrogé sur cette question, l'administrateur de Masisi indique que cette question relève de l'armée et du gouvernement central. Entre-temps, en territoire, en Ituri plutôt, les différents partenaires engagés dans l'opération de pré-cantonnement du groupe armé FRPI ont signé un acte d'engagement pour sa réussite. C'était hier à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de ce processus présidé par le gouverneur de province Jean Babanissa. Ce dernier précise qu'environ 450 miliciens sont déjà enregistrés dans ce site sur 1500 éléments attendus. Isaac Remoyope, reportage.
La cérémonie de lancement officiel des pré-cantonnements s'est déroulée devant une masse populaire en liesse qui s'est déplacée à la colline d'Azita, où sont hébergés actuellement environ 450 miliciens, affirmé le gouverneur. Cette cérémonie a été marquée essentiellement par la signature d'un acte d'engagement par tous les partenaires impliqués dans ces processus. Ces documents déterminent les responsabilités de chaque partie. Les mécanismes nationaux de suivi s'occupent des contacts avec le gouvernement national et de la mobilisation des ressources. La prise en charge des miliciens pendant les pré-cantonnements est assurée par le gouvernement provincial pour un coût total de 200 000 dollars, a déclaré le gouverneur. Les FARDC sont chargés de sécuriser les processus en respectant les consignes, notamment ne pas attaquer les miliciens dans les sites ou les désarmer. Les leaders du groupe armé FRPI doivent maintenir la discipline dans les sites et éviter la divagation de leurs éléments avec des armes dans les milieux. La MONUSCO s'occupe de l'appui technique. Ces mesures qui ont été prises de commun accord ont pour objectif de garantir la réussite de ces processus et éviter des dérapages qui peuvent compromettre les retours de la paix au sud du Rumo. Des retours de Getty, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Justice. Le procès sur le meurtre des experts de l'ONU s'est poursuivi hier à Kananga devant la cour militaire de l'ex-Kassai occidental. Moulumba Muteba Jaria a été de nouveau invité à s'expliquer sur son implication dans le meurtre de Zaïda Catalane et Michael Sharp. Le prévenu était confronté aux déclarations de Vincent Manga, le citant dans le procès verbal. François Kadima nous en parle.
Moulumba Muteba Jaria a continué à soutenir qu'il avait vécu la scène dans la parcelle de Boulaboula avant que les experts soient amenés à la rivière Moyo Musuila pour être exécutés et même après lors de partage de biens. À l'audience, le ministère public est revenu sur un procès verbal dans lequel Vincent Manga, présenté comme chef milicien, cite Moulumba Muteba Jaria d'avoir participé autour des autres chefs à la décision sur le sort à réserver aux deux experts. Jaria avait l'autorité supérieure sur Boulaboula et c'est lui qui a distribué les biens récupérés des experts, a déclaré le ministère. Le ministère public se référant au PV de Manga. Il avait même co-présidé le conseil qui a décidé de la mort des experts. Réagissant, l'incriminé a rejeté ses accusations, soutenant qu'il avait plutôt entendu Vincent Manga dire que les experts de l'ONU arrêtés étaient des traîtres avant d'ordonner qu'ils soient amenés à la rivière Moyo Musuila où ils ont été tués. Chipotuka Beyabeya Paul était notre prévenu cité dans cette affaire comme faisant partie des chefs qui avaient participé à la décision sur la mise à mort des experts de l'ONU. Il a expliqué avoir été écarté du pouvoir après l'arrivée de miliciens et n'avait jamais pris part à une telle rencontre. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
L'invité.
Nous recevons Ferdinand Matiaba, chef de bureau de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle au CEP Nord-Kivu. Il analyse certains extraits de l'hymne national congolaise, le début congolais, par rapport aux antivaleurs qui gangrènent encore la société congolaise. Il s'entretient avec Bernardin Nyangui.
Monsieur Ferdinand Matiaba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous parlez de debout congolais. À vous, ça inspire quoi?
Si nous parlons de debout congolais, c'est pour amener les gens à prendre conscience. On est en train de nous faire réveiller pour nous dire que la position que vous occupez n'est pas une position de force. Parce que la personne qui est assise ou la personne qui est en position endormie n'est pas forte. Quand on est en position debout, on peut attaquer, on peut commencer la marche, on peut faire tout.
Et quand on dit debout congolais, c'est debout par rapport au...
Debout, même pour le travail. Si vous êtes paresseux, vous continuez à dormir alors qu'il est déjà 7 heures. On ne va pas vous payer parce que vous êtes présent au travail même à 11 heures. Mais cette prise de conscience, vous savez que le travail commence à 7h30. Vous devez être là à 7h30. Mais puisque vous n'êtes pas en position debout, vous n'allez pas marcher. C'est-à-dire même à 11 heures, vous vous réveillez à 11 heures et le temps du boulot passe.
Et pour vous, le peuple congolais, dans le contexte actuel, nous sommes debout ou bien nous sommes assis?
Là, je vais nuancer. Si nous étions tous déjà debout, on verrait les choses changer. Même lorsqu'on parle de changement de mentalité, il faut être debout. Parce qu'il y a des choses que nous faisons que nous pouvons rejeter déjà.
Mais par rapport à votre service, dans le contexte de l'éthique professionnelle en RDC, nous pouvons être dans quelle position, selon vous?
La position... Debout n'est pas encore là. Parce que si nous étions en position debout, s'il fallait construire les temples d'éthique, il a fallu qu'il y ait à la base l'intégrité qui va donner une conséquence de la bonne gouvernance. Et donc, aujourd'hui, si nous décrions déjà qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, la bonne gouvernance n'existe pas. S'il n'y a pas bonne gouvernance, c'est pour dire qu'il y a un problème, il y a un déficit au niveau de l'intégrité. Or, l'intégrité fait partie intégrante de l'éthique professionnelle. Parce que la bonne gouvernance, c'est une conséquence de l'intégrité, une conséquence de l'éthique. Lorsqu'il y a la bonne gouvernance, il y a la culture de redevabilité, il y a la culture de transparence, il y a la culture de responsabilité et la culture des sanctions. Faudrait-il encore qu'on parle de la sanction? Mais là, c'est encore une matière compliquée. La sanction, on voit des gens, des vagabonds qui se lèvent un beau matin comme ça, ils sillonnent toute la ville et puis le soir, il a l'argent. Et si vous lui posez la question de savoir est-ce que tu as trouvé l'argent, ne me pose pas la question parce que sinon on va te prendre. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Par rapport à cette thématique, la corruption, qu'est-ce que vous avez fait comme constat?
Je crois que la prise de conscience doit naître. La corruption, c'est une arme silencieuse. Et donc, si nous ne faisons pas attention, tous, nous allons être décimés à cause de la corruption. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont en position endormie, c'est encore mieux. Mais il y a même des gens qui sont en coma de corruption.
Il y a une autre phrase, toujours dans l'hymne national, « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Est-ce que les fronts sont déjà dressés? Ou bien le front reste encore courbé?
Redresser ce qui est longtemps courbé, il faut casser. Et donc si nous avons peur aujourd'hui de dire la corruption, quand on parle de la corruption, les gens vous regardent avec dédain. Mais disons-nous la vérité, que la corruption, c'est un grand fléau pour la RDC. Vous allez vous rendre compte que la corruption, hier on en parlait, Motalikasu, et ainsi de suite, aujourd'hui la corruption change de terme. Alléluia, amen. Il y a aussi clin d'œil. Quelqu'un qui vous regarde, il vous fait passer le message de ce que vous allez faire, il vous clique l'œil et puis les millions disparaissent.
Que si on dit que nous n'avons pas encore le front dressé, c'est-à-dire que les gens ont encore peur de s'exprimer?
Les gens n'ont pas peur de s'exprimer, mais les gens ont peur des représailles. Dénoncer quelqu'un qui est dans la corruption, ce n'est pas facile. Les corrupteurs et les corrompus, c'est une boucle de confiance. Qui va transpirer l'information? Et le fait que les corrupteurs et les corrompus ne peuvent pas se trahir. La corruption est entretenue à tous les niveaux, depuis l'école primaire jusqu'au sommet et partout. Et d'ailleurs, voici la dernière partie. Lorsque nous sommes en train d'exécuter notre hymne national, nous disons que nous léguons à notre postérité pour toujours. La corruption, c'est la misère que nous allons léguer à nos enfants. Mais c'est grave. Alors, laissons quand même quelque chose, un héritage là, pour que ceux qui viendront après nous puissent quand même dire nos papas ont vécu et voilà ce qu'ils nous ont légué.
Monsieur Ferdinand Matiaba, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Le chef du bureau de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle au CEP Nord Kivu répondait aux questions de Bernardin Nyangui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.